Bonjour, chers auditeurs, ici Éric Lantier au microphone et merci d'avoir syntonisé le 92,7 FM et de prendre part à ce tour d'horizon. Veuillez noter que le tour d'horizon vise à donner aux gens de foi et aux citoyens de bonne foi une plateforme pour réfléchir et pour discuter avec les gens de notre entourage. Aujourd'hui, il sera question de la sous-scolarisation des jeunes. Le sujet du jour tire son inspiration d'un article de Mario Asselin publié dans le Journal de Montréal et intitulé « La sous-scolarisation des jeunes fait mal ». Voici ce que nous dit Mario Asselin. Plus d'un jeune sur cinq de 15 à 19 ans ne va pas à l'école et ainsi ne pourra probablement pas acquérir les compétences requises pour s'intégrer au marché du travail, selon les chiffres de 2012 publiés par le Centre sur la productivité et la prospérité de HEC Montréal dans son bilan 2015. Ainsi, mesdames et messieurs, sur 20 pays évalués, le Québec se classe au 19e rang des nations dans lesquelles on retrouve le plus grand nombre de jeunes de 15 à 19 ans sur le marché du travail ou en dehors du circuit scolaire. Le seul qui démontre des résultats moins élogieux, c'est la Nouvelle-Zélande. Par contre, le Québec est dernier de classe en ce qui concerne le taux de fréquentation en formation professionnelle, temps partiel ou temps plein, parmi les 15-19 ans. Pendant que l'Italie mène ce classement avec un score de 41,8%, le Québec est à 5,9%, selon les chiffres de 2012. C'est ce que nous révélait le Journal de Montréal au travers la plume de Mario Asselin. Alors maintenant, allons voir de plus près les chiffres à l'égard de la réussite scolaire dans cette même période. Et j'ai consulté un article d'Anne Mathieu du journal Le Soleil qui s'intitule « Recul du nombre d'élèves diplômés après 5 ans au secondaire public ». Cet article a été publié et mis à jour le 11 octobre 2013. Voici ce qu'il nous dit. Pour les 89 636 élèves qui ont fait leur entrée au secondaire en 2007, 63,3% d'entre eux ont reçu leur diplôme en 2012, soit après 5 ans sur les bancs d'école. Cela représente une légère baisse de 0,5 points ou l'équivalent d'environ 1075 élèves par rapport à leurs camarades qui ont terminé leur secondaire en 2011. Écoutez, mesdames et messieurs, 1075 places, c'est plus que la capacité de la salle L'Odyssée. La salle L'Odyssée, qui est située sur le boulevard de la Gap, eh bien, compte 841 places. Réalisez-vous l'ampleur? C'est phénoménal, c'est beaucoup. Parce qu'on peut se dire, bah, sur le nombre d'élèves, là, sur le nombre de milliers d'élèves, 1075, si on le met en pourcentage, c'est pas énorme. Écoutez, remplissez la salle L'Odyssée, puis il va encore avoir du monde dehors qui va attendre. Si vous mettez ces 1075 élèves-là, là, il va en avoir dans la rue, puis il va en avoir suffisamment, si on les met en ligne, en rang d'oignon, comme on dit, il va en avoir suffisamment pour se rendre jusqu'à la piscine, l'autre bord de la rue. Mais si on décortique les chiffres et que l'on compare les résultats des écoles publiques avec ceux du secteur privé, il y a de quoi tomber en bas de sa chaise. Écoutez bien ceci. Dans l'ensemble de la province, un peu moins de deux tiers des jeunes de la cohorte 2007, soit 63,3%, ont terminé leur secondaire dans les délais prévus. Les élèves du réseau public se situent en dessous de cette moyenne avec un taux de réussite en 5 ans de 57,3%. 57,3%, mesdames et messieurs. Ce que nous révèle Anne Mathieu dans son article, là, c'est que le 63,3% qui ont réussi en 5 ans, leur secondaire, c'est l'ensemble de la province. Mais dans les écoles publiques, qui sont subventionnées à 100%, c'est un peu plus de la moitié, 57,3%, mesdames et messieurs. Moi, là, quand j'ai vu ça, j'ai tombé en bas de ma chaise, parce que quand je lisais l'article au début, j'avais à l'esprit que c'était 63% de l'ensemble des élèves du système public. Non, c'est 63% de l'ensemble du système scolaire, public et privé confondu. Au public, le taux de réussite en 5 ans est de 57,3%. C'est même pas 6 sur 10. Anne Mathieu poursuit en disant, « Les élèves du réseau privé se situent quant à eux bien au-delà de la moyenne avec un taux de réussite en 5 ans de 87% en 2012. » Une augmentation par rapport à l'année précédente, alors qu'il était de 86,6%. En 2010, il chiffrait à 86%. Pour expliquer ces différences, le ministère de l'Éducation souligne que le réseau public accueille toutes les clientèles qui désirent s'inscrire, dont les élèves handicapés et en difficulté d'adaptation. Dans le réseau privé, les élèves sont bien souvent sélectionnés, note-t-on. C'est vrai que dans le réseau privé, les élèves sont sélectionnés. Mais ici, ce n'est pas un problème d'admission. C'est un problème philosophique. C'est un choix philosophique. Et c'est là qu'on voit que l'information qu'on reçoit est liée à une propagande, est liée à une philosophie, à un courant de pensée. Pourquoi je dis ça? C'est bien simple. Parce que si l'école publique retournait au modèle de classe où est-ce qu'on avait un programme allégé, un programme régulier et un programme enrichi, on ne vivrait pas ces statistiques-là. Le problème, c'est qu'on veut intégrer tout le monde dans la classe, autant ceux qui sont doués, autant ceux qui sont réguliers et autant ceux qui ont des problèmes d'adaptation, des problèmes intellectuels, des problèmes de comportement. On veut tout intégrer dans la classe. Et là, on est obligé de payer, on est obligé de consulter des experts, mettre sur pied des études, puis essayer de trouver des moyens pour faire justement augmenter le niveau de persévérance scolaire. Alors, mesdames et messieurs, si on avait un programme comme il a déjà existé, un programme allégé, régulier et enrichi, je crois que là, à ce moment-là, il y aurait une plus grande motivation. Vous allez dire, oui, mais ceux qui sont dans le programme allégé, ils vont se sentir moins compétents. Non, ils vont se sentir à leur place. On peut changer la terminologie. Là. Moi, j'utilise cette terminologie-là parce que ça sonne une cloche pour ceux qui ont, par exemple, 50 ans et plus. Vous avez connu ou vous avez connu des amis ou des frères et sœurs qui ont fait partie de ce parcours. Et c'est pour ça que chaque école devrait être indépendante, recevoir le plein financement. Et à ce moment-là, ce sont les écoles qui payent une redevance à leur commission scolaire et qui se développent un programme selon sa clientèle. Il se peut que dans certaines régions ou dans certains secteurs, une école n'a pas besoin d'avoir un programme allégé à chaque niveau. Peut-être que l'école va avoir besoin en première année d'une classe d'allégé. Et après ça, l'année suivante, ça va être en deuxième année, mais elle n'aura plus besoin en première année parce que c'est simplement un groupe comme ça qui monte d'année en année. Mais au moins que le modèle soit accessible, soit disponible, ça serait important. Si on va voir plus loin les chiffres que nous révèle Anne Mathieu dans son article dans Le Soleil, ce qu'elle nous dit également, c'est que l'année précédente, mesdames décrochaient leur diplôme dans une proportion de 70,7%, contre 57,3% pour messieurs, avec une différence de 13,4%. Si on va sur le site erudit.org, on peut lire ceci. Elliott et Voss, de leur côté, soutiennent que l'abandon scolaire constitue une sorte de voie d'évitement qui permet à certains élèves de réduire le stress et la frustration qu'ils éprouvent à l'école. Et ça, je trouve que c'est une réponse très intéressante qui explique pourquoi il y a tant de jeunes qui décrochent. Spécialement chez les garçons. Et on l'a vu hier, chez les garçons, eh bien, ils ont une façon différente d'apprendre et ils sont mis en échec plus rapidement, simplement par l'approche pédagogique qui est d'abord et avant tout adaptée aux filles. Mais je ne reviendrai pas là-dessus. Je vous invite, si vous avez manqué l'émission d'hier, d'aller sur ericlantier.net et consulter cette émission. Mais ce que nous disent Elliott et Voss, que l'abandon scolaire constitue une sorte de voie d'évitement qui permet à certains élèves de réduire le stress et la frustration qu'ils éprouvent à l'école. C'est quoi la frustration? Ils ne sont pas à la hauteur, ils n'y arrivent pas, ils n'ont pas la concentration nécessaire, ils n'ont pas les outils, ils n'ont pas l'environnement. C'est pourquoi on doit leur donner un environnement particulier à ces élèves-là qui décrochent. Et ceux qui sont doués, on doit leur donner un environnement particulier. Et ceux qui sont réguliers, eh bien, on doit leur donner un environnement pour qu'ils puissent réussir et pour pas qu'ils deviennent des décrocheurs. C'est dans cette direction-là, mesdames et messieurs, que je crois qu'on doit aller. Dans un document intitulé « Tous ensemble pour la réussite scolaire » publié par le gouvernement du Québec en 2009, on voit qu'en termes de réussite scolaire et de persévérance aux études, trois recommandations font l'unanimité. Parce qu'il y a plein de choses qui se sont écrites sur la réussite scolaire. Mais il y en a trois qui font l'unanimité. La reconnaissance de l'importance du rôle des parents et de la communauté dans la valorisation de l'éducation et l'accompagnement des jeunes. Et ça, je peux vous dire que c'est drôlement important. La reconnaissance de l'importance du rôle des parents et de la communauté. Moi, mesdames et messieurs, j'ai fait, dans mon projet de recherche en maîtrise, j'ai étudié la culture organisationnelle d'une école chrétienne, qui était à l'époque subventionné à 100%, l'école La Source à Chicoutimi. Et ce qui faisait qu'un élève qui s'est inscrit à la maternelle et qui se rendait jusqu'au secondaire 5 dans cette école-là, qui faisait tout son parcours, eh bien, il y avait un taux de décrochage qui était nul. Aucun décrochage. Savez-vous pourquoi? Exactement à cause de ce point-là. Parce que l'école communiquait les mêmes valeurs que celles des parents et celles de leur communauté, qui était l'Église. Et quand on nous dit que la reconnaissance de l'importance du rôle des parents de la communauté dans la valorisation de l'éducation et de l'accompagnement des jeunes est un facteur clé pour la persévérance scolaire, et moi je dis amen à ça. Le deuxième point est le dépistage précoce et tout au long du cheminement scolaire de l'élève, ainsi qu'une intervention adaptée à chaque milieu et à chaque élève. C'est pour ça que moi je dis, ben voyons donc, retournons à ce modèle-là. On pourrait l'appeler différemment, mais le modèle allégé, régulier et enrichi. Et le troisième point, l'action sur les apprentissages en lecture et en mathématiques et sur ceux liés au comportement, aux relations interpersonnelles et aux habitudes de vie. Et enfin, le niveau d'engagement scolaire et parascolaire des élèves. Ça, mesdames et messieurs, c'est drôlement important. Il y a beaucoup d'éléments là-dedans. Premièrement, les apprentissages en lecture, c'est tout part de la lecture. Tout part de la compréhension de texte. Tout part de « je comprends ce que je lis ». Ça, c'est la base. Les mathématiques, les raisonnements, la logique, etc., ça ouvre des portes sur plein d'éléments. Et les comportements, les relations, parce que apprendre, c'est une activité interactive, c'est une activité sociale, c'est une activité qui implique des éléments sensoriels. C'est une activité aussi qui est de l'ordre de l'affectif. Je me sens bien dans la classe, je me sens compris, je me sens accepté, je ne me sens pas ridiculisé. Ça joue un rôle. Mais si, par exemple, l'enseignante a de la difficulté à nourrir les élèves enrichis, a de la difficulté à maintenir les élèves réguliers, et l'enseignante a de la difficulté à intégrer les élèves en difficulté, croyez-vous que ça va créer un bon climat de classe? Non, mesdames et messieurs. La réussite scolaire et la persévérance, c'est important. Puis c'est important qu'on s'y penche en tant que collectivité parce que les conséquences vont au-delà de la sphère individuelle. Il y a un article qui a été publié sur le site de la Fondation Chagnon, fondationchagnon.org, qui s'intitule « Réunir, réussir pour la persévérance scolaire ». Et ils ont placé trois éléments importants. C'est que le décrochage scolaire là, engendre des coûts économiques et sociaux énormes tant pour les individus que pour la collectivité à court, moyen et long terme. Le décrochage scolaire aussi va avoir comme conséquence une fragilisation du tissu social et va avoir également comme conséquence une pénurie de la main-d'œuvre qui n'ira pas en augmentant. Et ça, j'ai consulté la toile pour qu'on puisse développer ces trois éléments-là. Parce que souvent, on a l'impression que ce sont, par exemple, 20-30% d'individus qui ont des problèmes. Non. Le décrochage scolaire implique qu'il va avoir des problèmes à plusieurs niveaux. La plateforme erudit.org répond à deux de ces éléments. Sur l'aspect des coûts économiques, voici ce qu'elle nous dit. Dans une synthèse des plus récents travaux sur l'abandon scolaire, Janos rapporte que les adolescents qui ont interrompu leurs études ont plus de risques d'éprouver des problèmes d'ordre social, économique et sanitaire. De plus, leur intégration socio-professionnelle sera difficile. Ils seraient plus nombreux à recevoir de l'aide sociale ou de l'assurance-emploi et leur emploi offrirait moins de stabilité, serait moins prestigieux et moins bien rémunéré. Sur la question de la main-d'œuvre, ce qu'on nous dit sur la plateforme de l'érudit.com, c'est que l'absence de diplôme ou de formation spécialisée n'entraverait pas la capacité des individus à s'intégrer sur le marché du travail ni à la société adulte. Ça, c'était jusqu'à tout récemment, disons jusqu'au début des années 90, tout au plus. Mais la situation a toutefois changé. L'accélération de la mondialisation de l'économie, tout comme les fluctuations importantes dans les économies nationales, ont entraîné une concurrence sans précédent qui a créé une pression sans précédent sur les besoins de qualification de la main-d'œuvre. Dans tous les domaines, les exigences de qualification pour s'intégrer au marché du travail se sont accrues de façon considérable. Par exemple, le Conseil consultatif national des sciences et de la technologie du Canada estimait en 1994 qu'en réponse à la pression concurrentielle du 21e siècle, 64% des nouveaux emplois créés au Canada exigent un minimum de 12 années de scolarité. Plus de la moitié de ces emplois en demandent 17. Il ne fait pas de doute que les compétences de la population figurent parmi les facteurs les plus importants du rendement économique, et la qualité de la main-d'œuvre est largement tributaire de la scolarisation. Dans un tel contexte, des taux élevés de décrochage scolaire menacent sérieusement le développement social et économique d'un pays. Et sur la question de l'effritement du tissu social, il y a un article qui a été publié sur le réseau Canop Québec.fr, qui est intitulé « La question sociale à l'école et les assistants sociaux scolaires ». Cet article résume bien le point. Voici ce qu'il en est. Pour les politiques publiques, lutter contre l'absentéisme et l'échec scolaire constitue un enjeu social majeur pour vaincre le chômage et l'exclusion. La lutte contre l'absentéisme et le décrochage s'articule et s'intègre à la politique de cohésion sociale et d'égalité des chances, aux politiques de l'insertion, de la formation et de l'emploi. Dans les secteurs les plus sensibles, elle s'intègre également à la lutte contre les violences et la prévention de la délinquance. L'absentéisme peut aussi révéler des situations familiales dégradées dans lesquelles protéger les enfants ou les adolescents s'impose. Deux champs auparavant distincts, le champ scolaire et le champ social, convergent. La question scolaire devient en effet une question sociale et parallèlement, la question sociale passe par le traitement de la question scolaire. Écoutez, mesdames et messieurs, le décrochage scolaire n'a pas seulement un effet individuel, mais il a également un effet social. J'aurais tellement d'autres matériels à vous présenter, mais malheureusement, il nous reste très peu de temps. En terminant, au lieu d'investir dans la réparation, on devrait investir dans la prévention. C'est pourquoi je crois qu'un retour au modèle allégé, régulier et enrichi serait une bonne solution à intégrer dans le système scolaire. On pourrait débuter par des projets pilotes, tester le programme, tester le projet et après ça, faire des mesures d'ajustement pour tenter de l'intégrer dans toutes les écoles où là ça s'applique. C'est déjà le temps de clore cette émission, mesdames et messieurs. Si vous désirez poursuivre la discussion, eh bien, je vous invite à m'écrire à l'adresse suivante. C'est leblogueur@commercialericlantier.net. C'est leblogueur@commercialericlantier.net. Je vous invite également à être des nôtres du lundi au vendredi à 8h05 et à 20h05 pour parcourir votre tour d'horizon. N'oubliez pas que cette émission est également en tout temps disponible sur le www.ericlantier.net. C'est le www.ericlantier.net. Merci d'avoir syntonisé le 92,7 FM. Je vous dis, mesdames et messieurs, à demain.